France.
Il est 23h, merci d'écouter France Inter. Tout de suite, le journal, c'est avec Marie Maheu. Bonsoir Marie.
Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. Il était déterminé à tuer une surveillante de son collège de Haute-Marne. N'importe laquelle, c'est ce qu'a confié cet adolescent de 14 ans lors de sa garde à vue. Un profil qui interpelle, on fait le point dans quelques instants. À suivre également dans ce journal, cet accord entre les États-Unis et la Chine qui pourrait mettre fin à la guerre commerciale entre les deux grandes puissances mondiales. Encore faut-il que Donald Trump et son homologue chinois ratifient le texte final. En Israël, l'eurodéputé Rima Hassan, placée brièvement à l'isolement, elle devrait revenir en France demain ou vendredi au plus tard, selon le ministère des Affaires étrangères. La signature d'un partenariat historique, c'est ce que dit Emmanuel Macron entre une start-up française et un géant américain en plein salon Vivatech à Paris, on vous explique tout. Et puis ces musiques, ça ne changera pas, donneront toujours envie de tout lâcher pour aller faire du surf sur les vagues californiennes. Hommage ce soir à Brian Wilson des Beach Boys, mort à 82 ans.
France Inter.
Il reconnaît donc avoir poignardé à mort une surveillante de son collège de Nogent hier matin en Haute-Marne, mais n'exprime aucun regret. La garde à vue de ce garçon de 14 ans ouvre finalement plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Ce qui est sûr, en revanche, William Delesseux, c'est qu'il avait tout planifié.
Il avait choisi le jour, ce mardi, pour prendre un couteau dans la cuisine de ses parents et s'attaquer à une surveillante, peu importe laquelle, il n'y a que des surveillantes dans cet établissement et pas spécifiquement à Mélanie, 31 ans, à l'entrée ce matin-là pour vérifier les carnets de correspondance, tandis que les gendarmes procédaient au contrôle des sacs. Mais le jeune homme ne lit pas son passage à l'acte à la présence des forces de l'ordre. C'est un jeune homme fasciné par la mort, les séries macabres, les jeux vidéo les plus violents, décrit le procureur de Chaumont, Denis de Valois.
L'intéressé se montre détaché, tant au regard de la gravité des faits reprochés que des conséquences vis-à-vis de lui-même. Il n'exprime pas de regret ni aucune compassion pour les victimes.
Aucun regret, aucune audition. Pourquoi vouloir s'en prendre à n'importe quelle surveillante? Il aurait été rappelé à l'ordre par l'une d'entre elles vendredi dernier, alors qu'il était avec sa petite amie. C'est en tout cas ce que le suspect a raconté aux enquêteurs.
Il indique avoir agi ainsi parce qu'il ne supportait plus le comportement des surveillantes en général, qui auraient eu, selon lui, une attitude différente selon les élèves.
Il reste des zones d'ombre, avait-il prévenu ses amis de son acte? Quelle préméditation? En garde à vue, le suspect sera déféré demain pour être présenté à un juge d'instruction. Les auditions se poursuivent pour ce meurtre. Il encourt 20 ans de réclusion criminelle.
À William Delesseux depuis Nogent avec les moyens techniques de Benjamin Thuot. Une minute de silence sera observée demain midi dans tous les établissements scolaires de France. En parallèle, le gouvernement dévoile ce soir un plan pour mieux repérer et soigner les troubles psychiques. Une trentaine de mesures listées par le ministre de la Santé. Parmi elles, la formation de 2 adultes repères dans chaque collège et lycée d'ici l'année prochaine. Yannick Neuder promet aussi que tous les personnels de santé scolaire seront formés au repérage précoce. Le ministre n'a en revanche pas annoncé d'enveloppe spécifique à ce plan. Nous avons un accord avec la Chine, lance Donald Trump sur son réseau social, alors que les deux pays sont allés très loin dans la guerre commerciale initiée par le président américain, jusqu'à 145% de taxes supplémentaires. Mais désormais, tout va bien sous le soleil. Selon Washington, Sébastien Paour, que sait-on de cet accord?
Alors, sur les droits de douane, si on en croit Trump, on est à 55% sur les importations chinoises et 10% côté Pékin sur les produits américains. L'accord permet de revenir en fait à ce qui a été acté à Genève le mois dernier, discuté au téléphone pendant 1h30 la semaine dernière entre Trump et Xi Jinping, et qui avait volé en éclats après parce que chaque pays imposait ses contraintes à l'autre. Oublié désormais a priori donc les pressions des dernières semaines, Trump remballe ses menaces d'interdiction de visa pour les étudiants chinois et Pékin s'engage à fournir des terres rares aux États-Unis, mais pour 6 mois seulement, pour l'instant, d'après le Wall Street Journal ce soir. Trump écrit que les relations sont excellentes entre les deux pays, mais Pékin garde tout de même un moyen de pression en cas de retour des tensions.
Et un accord en tout cas salué par l'Allemagne, alors que l'Europe, elle aussi, négocie avec les Américains au sujet des droits de douane. Les 4 militants français du voilier humanitaire Madeleine, encore retenus en Israël, vont revenir en France demain et vendredi au plus tard. C'est le ministère des Affaires étrangères qui l'annonce. Parmi eux, l'eurodéputé insoumise Rima Hassan, qui a été brièvement placée à l'isolement, Thibault Lefèvre.
Oui, dans la prison pour femmes de Neve Tirza, c'est dans la ville de Ramla, pas très loin de l'aéroport Ben Gurion. Son avocate a pu lui rendre visite et elle parle dans un communiqué de conditions inhumaines. Elle raconte que Rima Hassan a été placée dans une petite cellule sans fenêtre, dans des conditions donc sanitaires déplorables et sans accès à la cour extérieure. La députée européenne était jusque-là dans un autre établissement, la prison de Givon, mais selon la même source, elle a été déplacée après avoir écrit sur un des murs de sa cellule le slogan « Free Palestine, libérer la Palestine ». Hier soir, Rima Hassan, trois autres Français et quatre militants étrangers ont été présentés à un juge. Après 5 heures d'audience, ils ont reçu leur ordre d'expulsion. La loi israélienne donne normalement 3 jours aux autorités jusqu'à vendredi soir, donc pour les obliger à sortir du territoire. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, affirme qu'ils seront expulsés demain ou après-demain. Le tribunal a cependant fixé une nouvelle audience dans un peu moins d'un mois, le 8 juillet prochain, pour réexaminer le dossier, ce qui laisse donc théoriquement la possibilité aux autorités israéliennes de prolonger la détention des 8 militants, dont Rima Hassan.
Et à l'instant, la défense civile de Gaza affirme que les forces israéliennes ont ouvert le feu sur des personnes allant chercher de l'aide humanitaire, faisant 31 morts. Ce samedi, 5 syndicats appellent à une grande mobilisation pour la Palestine en France. À Paris, le rendez-vous est donné à 14h, place de la République. Alors que la croissance française, elle, est toujours marquée par la guerre commerciale de Donald Trump et que la Banque de France rabote de nouveau de 0,6 à 0,6% sa prévision de croissance pour cette année, une bonne nouvelle quand même du côté de la tech française. Au rendez-vous aujourd'hui pour l'ouverture du salon VivaTech à Paris, le géant américain Nvidia, spécialiste des puces électroniques, et le français Mistral AI ont annoncé un partenariat, ce qui fait passer Stéphane Jourdain, la start-up tricolore, à un tout autre niveau.
Oui, il y a un changement d'échelle puisque c'est avec l'entreprise la mieux valorisée au monde que la petite pépite française signe un partenariat stratégique. Nvidia va lui mettre à disposition ses fameuses cartes à puces que tout le monde s'arrache dans la course à l'IA. Nouveau terrain de jeu ensuite, puisqu'à sa création, il y a 2 ans, Mistral développait des modèles d'IA un peu à la manière d'un labo de recherche. Puis elle a lancé un produit grand public, le chat, seul vrai concurrent de ChatGPT en Europe. Voilà qu'elle se lance maintenant dans la bataille des infrastructures. Elle va développer directement les modèles d'IA de ses clients sur ses propres serveurs. C'est donc une solution tout en un que Mistral propose, de l'algorithme jusqu'à l'infrastructure. BNP Paribas, Orange, Veolia, Thales ou même la SNCF ont déjà fait part de leur intérêt.
Stéphane Jourdain au salon VivaTech à Paris. Le Sénat examine demain la taxe dite Zuckman, proposition de loi qui veut fixer un impôt minimal de 2% sur les patrimoines dépassant les 100 millions d'euros. Les ultra-riches, donc, ils sont 1800 en France. Son initiateur, l'économiste Gabriel Zuckman, estime qu'elle pourrait rapporter 20 milliards d'euros, mais elle a peu de chance d'aboutir à la Chambre haute à majorité de droite. Et puis, c'était une légende de la pop-rock américaine. On a appris ce soir la mort de Brian Wilson, cofondateur des Beach Boys, à l'âge de 82 ans, qui laisse derrière lui des tubes mythiques comme Surfing USA. Retour et hommage en musique, évidemment, avec Mathieu Culeron.
Né en 1942 à Inglewood, en Californie, Brian Wilson est l'aîné d'une fratrie composée de Dennis et Carl, avec qui il fondera les Beach Boys. Pour lui, la musique devient vite un refuge pour échapper à un père qu'il décrit comme cruel et méchant. Vers 7 ans, on détecte chez Brian des capacités hors normes. À l'église, le directeur de la chorale affirme qu'il a l'oreille absolue. Vers 12 ans, autodidacte, il se met au piano de façon obsessionnelle pendant des heures, juste après l'école. Le premier album, Surfing Safari, est un coup d'essai, mais en 1963, Surfing USA connaît un immense succès. Trois ans plus tard, la Beatlemania ravage l'Amérique et Brian Wilson est fou de jalousie. C'est alors que va débuter le plus grand combat de génie de l'histoire de la pop, avec Paul McCartney notamment. I Get Around des Beach Boys devient numéro 1 aux États-Unis, un peu comme une réponse au Fab Four. Brian Wilson commence ensuite à sentir une grande détresse psychologique. L'abus de drogue va aggraver son état, mais c'est aussi à cette période que Wilson va composer ce que beaucoup considèrent comme le chef-d'œuvre de la pop mondiale, Pet Sounds. Avec comme point d'orgue le titre God Only Knows, bijou ultime qui fera de Wilson un roi de la composition. I may not always love you. Il enchaîne en 1966 avec Good Vibrations, un single qui lui aussi est fondateur et inoubliable. Génie torturé, prince de l'harmonie, Brian Wilson rentre au panthéon des stars du genre, admiré et adulé comme un dieu de la pop.
Good Vibration, qui a nécessité 90 heures d'enregistrement de pistes magnétiques dans 5 studios.
La météo avec TGV Inouï. Trouvez votre coin de ciel bleu dans une de nos 200 destinations en France et vers l'Europe.
Et le temps, c'est avec vous, Sébastien Léas.
Situation instable sur la façade atlantique avec des averses localement orageuses qui circulent. Au fil de la nuit, ces averses et ces orages se décalent vers le nord pour s'attarder entre la Bretagne, les Pays de la Loire et la Normandie. Demain, l'activité deviendra progressivement plus faible malgré quelques coups de tonnerre résiduels. D'autres averses, parfois orageuses, vont également se développer demain entre l'Auvergne et le centre-val de Loire et plus localement sur les Alpes frontalières et l'ouest des Pyrénées. Sur le reste du pays, la journée sera calme et souvent bien ensoleillée, même si le ciel sera parfois bien voilé. Prévoyez aussi quelques entrées maritimes autour du Languedoc. Les fortes chaleurs concerneront une large partie du pays avec 30 à 34 degrés de l'Occitanie à l'Île-de-France jusqu'aux régions de l'Est, alors qu'il fera 25 à 30 degrés des Hauts-de-France à la façade atlantique et 20 à 25 degrés en Bretagne.
Merci Sébastien Léas de Météo France.
Les Français font de moins en moins d'enfants. Le nombre de naissances a diminué de 21% depuis 15 ans. Pour quelles raisons ? Allons voir sur le terrain.
France Inter, 13h, Jérôme Cadet.
Ce jeudi, le 13-14 s'installe dans la maternité de Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais. À l'écoute des soignants et des parents, pourquoi le désir d'enfant s'efface-t-il ? Comment relancer la natalité ? Quelles conséquences pour les écoles, les associations, les entreprises ? Nous ouvrons le débat avec nos invités et nos reportages.
Le 13-14 de France Inter.
En direct de la maternité de Saint-Omer, c'est demain.
France Inter, partenaire des Francopholies de La Rochelle. Plus de 80 concerts et rencontres musicales du 9 au 14 juillet 2025 avec Clara Luciani, R, Lamo Mali, SDM, IAM, Philippe Catherine, Solane, Cassius, Dali et bien d'autres. Les Francopholies de La Rochelle, un événement France Télévisions et France Inter.
23h11 sur Inter, tout de suite Affaires Sensibles avec Fabrice Drouel.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, Jean-Marie Deveau. Un glaive, une balance et les yeux bandés, tel est Thémis, la représentation mythologique de la justice. Le glaive et la balance, en tant que symbole, ne prêtent guère à confusion, mais les yeux bandés de la déesse de la justice, c'est autre chose. Les uns y voient l'impartialité, les autres l'aveuglement. Eh bien, il se trouve que tout est histoire d'aveuglement dans l'histoire que nous vous racontons aujourd'hui. Celle d'un jeune homme, Jean-Marie Deveau, qui fait figure de coupable idéal. Celle d'une police qui se contente de peu et celle d'une justice qui préfère l'apparence d'une culpabilité à une réelle culpabilité. Mais qui se souvient de lui ? Pourtant, ce Lyonnais, accusé et condamné à tort, a laissé une trace indélébile dans l'histoire judiciaire. Accusé du meurtre d'une fillette en 1961, condamné en 63, puis innocenté en 69, c'est à son affaire qu'on doit la loi sur l'indemnisation des personnes incarcérées à tort. Notre invité aujourd'hui, Mathieu Delahousse, journaliste, chroniqueur judiciaire et auteur notamment de La Chambre des Innocents, livre paru chez Flammarion en 2017. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct, récit documentaire et rédaction en chef, Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Donnante, réalisation Étienne Bertin.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter.
En cet hiver 1963, la ville de Lyon grelotte. On patine au parc de la Tête d'Or et la Saône est en partie prise par la glace ce 4 février. On sait qu'il fait moins 15 au lever du jour, mais on ne trouve pas mention de la température à l'intérieur de la cour d'assises. Ce bâtiment néoclassique aux 24 colonnes, situé juste au-dessus du fleuve. Sans doute n'y fait-il pas très chaud, et même le bouillant président Combas ne peut à lui seul réchauffer l'atmosphère. C'est que le procès de Jean-Marie Deveau, garçon boucher, accusé d'avoir tué la fille de ses patrons, vient de s'ouvrir. Rappel des faits, personnalité de l'accusé, le déroulé est assez classique. Mais à la nuit tombée, juste avant que l'audience soit levée, une heure de débat est consacrée à un chat. Oui, un chat.
Deveau, votre patron vous avait donné un petit chat et vous lui avez cassé les reins.
C'est un accident, monsieur le président. J'ai voulu prendre un escabeau, je l'ai lâché, le chat était en dessous.
Comment avez-vous pu lui casser les reins ? C'est un acte barbare, barbare !
Ce n'est pas moi. Je suis innocent.
C'était un petit chat, sans défense. Il avait confiance en vous. Il venait se faire caresser et vous, sans raison, vous lui cassez les reins. Il est mort dans des souffrances épouvantables, à tel point qu'on a dû mettre un terme à sa carrière de chat. Alors, de vous, on tue les petits chats et on s'attaque aux petites filles ?
En 1894, dans son roman « Poil de carotte », Jules Renard écrit « On commence par voler un œuf, ensuite on vole un bœuf, puis on assassine sa mère. » Traduction pour le président de la cour d'assises, Roger Combas, on assassine un chat, puis on assassine une fillette de 10 ans. Sauf que l'accusé de Vau n'a jamais tué de chat, ou il sortait pas bon. Pas plus qu'il n'a tué la fille de ses patrons, mais ça, à l'époque, ni la justice ni la police lyonnaise n'en ont cure. Alors remontons 20 mois en arrière, 20 mois avant le procès de Jean-Marie de Vau. Nous sommes le 7 juillet 61 à Bron, dans la banlieue lyonnaise, plus précisément au 156 de l'avenue Saint-Exupéry. Cet immeuble fait partie de ceux qui ont été bâtis à marche forcée les années précédentes. On les appelle des UC, des unités de construction. Ces grands ensembles font la fierté de la France, à tel point qu'on les trouve reproduits sur des centaines de cartes postales. Le 156 avenue Saint-Exupéry, par exemple, c'est du béton brut sur 8 étages, avec au rez-de-chaussée la devanture d'une boucherie. Et c'est le seul commerce du bâtiment. Devant se garent des 4L, des Simca rondes ou des estafettes Renault. La boucherie est tenue par les époux Bessard. Ils ont une petite fille, Dominique, et un commis, Jean-Marie de Vau. Vers 16h10, c'est le choc. On découvre le corps de la petite dans un couloir qui mène aux caves. Oui, le corps. La fillette de 8 ans a été poignardée 3 fois au ventre et 2 fois à la gorge. Le cadavre est encore chaud et souple, notent les enquêteurs, signe que la mort est toute récente. Un témoin évoque spontanément la présence d'un homme en chemise blanche et pantalon sombre dans le voisinage. Le commis Jean-Marie de Vau, 19 ans, est interrogé lui aussi, et ses vêtements sont examinés. Aucune trace de sang sur ses chaussures, son tablier ou ses avant-bras. La presse publie une photo montrant Dominique, touchante dans son tutu de petite danseuse, mais la police n'a aucun suspect. Le 12 juillet, le Parisien libéré titre, le crime de Bron, tous les suspects appréhendés ont été mis hors de cause.
On n'a pas encore pu identifier l'odieux criminel qui, dans la cave de cette cité, s'est acharné à coups de coutelas sur le pauvre petit corps de Dominique Bessard. Les enquêteurs ne se lassent pourtant pas de rechercher l'indice, jusqu'ici imprévisible, qui leur permettra de démasquer le criminel que malheureusement aucun voisin ni passant n'a remarqué. Lundi, un suspect était arrêté par la gendarmerie à Monestier de Clermont sur un vélo volé. Cet individu, sans domicile fixe, a été mis hors de cause et inculpé seulement de vol de bicyclette. Un autre suspect a été appréhendé à Champier, puis relâché. Chaque jour, c'est une dizaine de pistes qui, à peine saisies, s'effondrent tour à tour. Rien n'annonce un coup de théâtre tant espéré.
Il survient pourtant ce coup de théâtre tant espéré. Il arrive le 29 août suivant. Le télégramme de Brest écrit « À l'endroit même, à Bron, où fut assassinée une fille de 8 ans, on a trouvé assommée la dernière personne qu'il a vue en vie. » À 10h45 du matin, sur demande de son patron, Jean-Marie de Vau descend dans la chambre froide de la boucherie pour y débrancher un ventilateur. Au bout de quelques minutes, ne voyant pas revenir son commis, Bessard s'inquiète. Il se dirige à son tour vers l'arrière de son commerce et trouve sur le palier, là où était découvert le corps de sa fille, celui du garçon boucher, presque inconscient. Lorsqu'il revient à lui, de Vau déclare « Je regagnais la boucherie lorsqu'on m'a frappé au sommet de la tête, de coups violents qui m'ont étourdi. » Avant de m'évanouir, j'ai eu le temps de voir un bas de pantalon sombre. Entre alors en scène le commissaire Lucien Durin, chef de la sûreté urbaine de Lyon. L'agression dont parle De Vau lui paraît bien étrange, d'autant que les rapports médicaux ne font état que d'une plaie superficielle bien peu compatible avec des coups de matraque assénés avec force, comme le prétend la victime. Un médecin parle même d'une lésion grattage. Deveau se serait lui-même gratté le cuir chevelu pour faire apparaître une blessure. Le lendemain, il reconnaît sans grande difficulté avoir menti. En simulant l'agression, je pensais trouver que j'étais pas l'assassin que de Dominique, puisqu'on s'attaquait également à moi. Aïe. Le raisonnement tenu par le jeune homme n'est pas très finaud, mais lui-même ne l'est pas vraiment, si l'on en croit ce que le journaliste Daniel Sard écrit de lui. Deveau fut un enfant docile, d'une passivité alarmante, timide, malléable. Un menteur, pire même, un inventeur qui, une fois lancé, ne s'arrête plus. On lui prête même un âge mental de 12 ans, alors qu'il s'approche de la vingtaine. Le chroniqueur judiciaire du Monde, Jean-Marc Théolaire, le décrit ainsi.
Qui est Deveau ? Un fils de famille modeste, peu doué, pleurnichard, médiocre, sans initiative, nonchalant. C'est ainsi qu'il est dépeint par ceux qui l'ont connu dès son enfance. Mais aussi, dès son plus jeune âge, il affiche des tendances marquées à l'affabulation. Il est celui qui vous invente des histoires, tel ce récit qu'il donnait à ses employeurs pour leur parler de l'existence d'une fiancée possédant une déesse violette, et ensuite leur dire, un beau jour, que cette jeune fille s'était tuée dans un accident de la route. Et il pleurait comme si ce personnage et ce drame avaient réellement existé.
Côté image, c'est mal parti. C'est donc ce jeune homme-là qui, le 1er septembre 1961, est interrogé par le commissaire Durin. Leur dialogue se déroule ainsi. Si tu as menti dans cette affaire d'agression, tu n'as pas non plus dit toute la vérité dans l'affaire de Dominique, hein ? Est-ce que tu as déjà entendu parler du sérum de vérité ? Je t'explique. On fait une piqûre à un accusé, et s'il ne dit pas la vérité, eh bien on le voit sur un appareil. Non, monsieur, j'ai peur que ça me fasse mal. D'accord. On le fait pas. Mais il faut me dire la vérité. C'est moi qui ai tué Dominique. Il est 18h15, Deveau vient d'avouer. Et à 21h, nouvel interrogatoire. Et là, il se rétracte. C'est pas moi qui ai tué Dominique. Non, non, c'est pas moi. Pourtant, cet après-midi, tu m'as dit que c'était toi. Est-ce que je t'ai brutalisé ? Non, monsieur, mais j'ai réfléchi, je me suis dit que j'allais être puni. Comment ? Ben, je sais pas, 2 à 3 ans de prison ? Tu veux qu'on te fasse le sérum de vérité ? Non, monsieur, non. Alors, le jeune homme réitère ses aveux et signe le procès-verbal sans le relire. La vérité, c'est qu'il a une peur terrible des piqûres, une peur physique et irraisonnée, diront les psychiatres. Mais pour le commissaire Durin, l'affaire est entendue. À 15h15, Deveau descend à la cave pour aiguiser des couteaux. La petite Dominique demande à l'accompagner, mais au sous-sol, le commis réalise qu'il a oublié la clé. Alors il décide de tuer la petite. « Ça m'est venu d'un coup », indique-t-il. Il fait croire à la fillette qu'il a perdu sa montre. Elle se baisse pour la chercher. Il la poignarde d'abord au ventre avant de lui trancher la gorge. Puis il remonte, lave le couteau dans l'évier et le range. Mais pourquoi ? Mystère. Le 4 septembre, on lit dans la presse « La petite Dominique a été assassinée par le commis de son père, un garçon boucher un peu simple d'esprit. » Voilà, comme ça c'est réglé. Un mois plus tard, comme nous vous le racontions au début de ce récit, Jean-Marie Deveau comparaît devant la cour d'assises dans une relative indifférence. Parce que le procès qui fait la une, c'est celui des auteurs de l'attentat de Petit Clamart, la tentative ratée d'assassinat du général de Gaulle. Alors, au côté, l'affaire Deveau ne fait pas le poids. Tout au plus un article en fin de journal, après la météo, commence le 5 février 1963.
Inter, actualité.
Les faits divers à présent est naturellement le procès de Jean Deveau, le commis boucher qui est accusé du meurtre de la petite fille de ses patrons, la petite Dominique Bessard, une enfant.
C'est la seconde journée devant les assises du Rhône et le commis boucher répète en leitmotiv, répète constamment « Je suis innocent, j'ai tout inventé ». Il crie cela inlassablement, mais tout aussi inlassablement, le président Combas, relève les innombrables contradictions que présentent les déclarations du garçon. Et en tout cas, de plus en plus à ce qu'on nous dit, Jean-Marie Deveau apparaît vraiment comme un attardé mental suite du procès demain.
Eh oui, l'affaire de passion de guerre. On l'entend, l'accusé s'appelle tantôt Jean Deveau, tantôt Jean-Marie Deveau. Et il est un attardé mental, donc rien d'intéressant. Si ce n'est ces contradictions dont parle France Inter ce jour-là. Par exemple, le président Combas, ne comprend pas comment Devaux, s'il n'est pas l'assassin de Dominique, peut décrire précisément la position du corps de l'enfant. L'accusé répond avoir vu le cadavre quand celui-ci a été découvert par une voisine et la maman de la petite fille. Mais les deux femmes réfutent. Elles étaient seules, Devaux n'était pas avec elles. Le premier enquêteur sur les lieux précise, lui, que les deux femmes étaient en état de choc et qu'elles ont pu occulter la présence de Devaux. Mais l'argument n'est pas entendu par la cour d'assises. Pire, Devaux traite les deux femmes de menteuses, déclenchant aussitôt des murmures de réprobation. Autre contradiction relevée, quand Madame Bessard descend de son appartement, au dernier étage de l'immeuble pour arriver dans la boucherie, elle entend le chauffe-eau, ce qui signifie que Devaux est en train de laver quelque chose. Le couteau, sans doute. L'accusé nie. Il a bien fait couler l'eau chaude, mais c'était avant. Quand la mère de Dominique est descendue, il désossait un train de côte. Voilà. Madame Bessard est formelle. Il semble difficile qu'elle ait commis une erreur, dit le président Combas. Non, elle s'est trompée, répond Devaux. Voici le compte-rendu du Parisien Libéré.
Ce fut un moment pathétique, lorsqu'on vit cette malheureuse Madame Bessard s'approcher de la barre pour faire sa déposition. D'une voix brisée par l'émotion, elle exposa tout d'abord les circonstances qui précédèrent la découverte du corps. Dans la salle, le public retenait son souffle, afin d'entendre le mieux possible cette mère qui se souvenait et luttait pour ne pas sangloter. Lorsqu'il lui fallut relater l'instant où elle fut mise en présence du petit corps supplicié, Madame Bessard laissa couler ses larmes. Mais il lui fallait aller au bout de cette tâche surhumaine que son devoir lui dictait. Puis il y eut un silence, un long et douloureux silence. Le procès avait atteint son point culminant. La douleur partagée avec la malheureuse Madame Bessard avait suscité dans la salle comme un besoin plus grand, plus urgent et moins abstrait de justice.
En justice, le doute est censé bénéficier à l'accusé. Mais dans cette affaire, le doute n'effleure personne, surtout pas l'avocat général, dont le métier, il est vrai, est de démontrer la culpabilité de l'accusé. Et puis, l'ambiance pour son réquisitoire est très favorable. Le président de la cour, Combas, lui a bien mâché le travail avec son histoire de petit chat, ou avec ses décisions de suspendre l'audience, soit à un moment dramatique et plombant, pour Devaux, soit quand un témoignage pourrait amoindrir l'accusation. Le journaliste du Figaro écrit « Combas agit de telle façon que l'inculpé n'est qu'un nain, un homoncule chétif entre ses mains. Tout est inégal dans ce combat. Le magistrat dispose d'un micro qui propage loin sa voix de stentor. L'accusé, qui lui en est dépourvu, ne laisse percevoir qu'une sorte de miaulement timide. Donc, quand Constant IV, l'avocat général, se lève pour requérir, les jurés lui semblent tout acquis. Alors, il rappelle deux petits vols de Devaux commis chez un précédent patron, la petite monnaie du tiroir caisse, un transistor, puis le petit chat. On connaît la chanson. Qui vole un œuf, vole un bœuf, puis tue un petit chat, puis une petite fille. Toute l'accusation contre le jeune homme se mesure à l'aune de ce raccourci. Pourtant, Constant IV l'admet. Il ne connaît avec certitude ni l'accusé, ni le mobile. Mais il va pourtant trouver un, ou plutôt, et c'est là une chose surprenante, il va en inventer un. Le geste criminel du voleur surpris, comme il dit.
J'imagine volontiers Devaux, en cet après-midi du 7 juillet, alors qu'il est seul à la boucherie, désireux d'explorer le tiroir-caisse comme il l'a fait chez un employeur précédent. Mais la petite Dominique le gêne. Elle entre et sort sans cesse. Peut-être revient-elle juste au moment où il dérobe quelque chose. C'est très vilain ce que tu fais là, Jeannot. Je vais le dire à papa et maman. Alors, Devaux s'affole et il décide de faire disparaître le témoin Dominique.
L'avocat général imagine ou dit peut-être, mais les jurés, eux, ne doutent pas. Ils retiennent plutôt les mots « danger social »,« assassin » que Constant IV prononce. Après 2h30 de délibéré, ils suivent les réquisitions. Jean-Marie Devaux est condamné à 20 ans de prison. Ne comprenant manifestement pas grand-chose, celui-ci affiche un sourire joyeux et s'adresse à l'avocat, lui dit « Alors maître, je sors ce soir ?»
O'Reilly stole a stallion, but they caught him and they brought him back, and they laid him down in the jailhouse ground with an iron chain around his neck. When Riley's daughter got a message that her father was going to hang, she rode by night and came by morning with gold and silver in her hand. When the judge saw Riley's daughter, his old eyes deepened in his head, saying, "Gold will never free your father. The price, my dear, is you instead." "Oh, I'm as good as dead," cried Riley. "It's only you that he does crave, and my skin will surely crawl if he touches you at all. Get on your horse and ride away." "Oh, father, you will surely die if I don't take the chance to try and pay the price and not take your advice. For that reason, I will have to stay." The gallows shadows shook the evening, in the night hound dog bayed, in the night the grounds was groaning, in the night the price was paid. The next morning she had awoken to find that the judge had never spoken. She saw that hanging branch abandoned, she saw her father's body broken. "These be seven curses on a judge so cruel that one doctor cannot save him. The two healers cannot heal him, and the three eyes cannot see him."
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, l'affaire Jean-Marie Deveau.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
La justice peut tout changer d'un homme. Jean-Marie Deveau, 20 ans, n'est plus garçon boucher, il est un meurtrier. Il est le matricule 989 de la prison Saint-Paul de Lyon. Le 13 février 1963, 5 jours après la condamnation, un détenu aborde Deveau dans la cour de promenade. "C'est bien toi qui as tué une gamine de 8 ans dans une cave ?" Il a beau répondre qu'il est innocent, mais le détenu qui lui parle ne veut pas causer innocence ou culpabilité. Non, il a une nouvelle à lui transmettre. « Je te la donne avant ta mère ou ton avocat, parce que tu sais, les murs des prisons ont des oreilles. Ton père est tombé paralysé, il a eu trop de chagrin, qu'on dit. » Alors, des jours durant, Deveau pleure ce père qui ne bouge plus, qui ne parle plus. Charles, le paternel, s'est persuadé qu'il était responsable de la condamnation de son fils. Lors du procès, à peine une semaine plus tôt, il concède que, oui, son fils invente parfois des histoires. Le président Combas se tourne alors vers l'accusé. « Alors, Deveau, vous voyez, même votre père vous accuse. » Charles Deveau ne se remettra jamais de cette phrase. Mais comment expliquer l'attitude de ce président de cour d'assises qui devrait incarner l'arbitrage et non l'arbitreur ? Le célèbre avocat Paul Lombard décrit ainsi Roger Combas dans son livre « Quand la justice se trompe ».
Son physique étonne. Tassé, comme enfoncé dans un fauteuil trop grand pour lui, il niche en grassouillette personne dans la Moleskine. Ses membres courts, inhabiles, s'agitent sans grâce. La tête trop large surprend. Les yeux sans arrêt à l'affût diffusent une vivacité redoutable qui ne s'exprime jamais aussi bien que dans le grincement et l'agressivité. La nature commet quelques injustices, à faire trimballer par un corps de cirque une intelligence d'académicien. La cour d'assises lui permettait de s'imposer. Il s'en servait comme d'un tremplin pour démontrer une supériorité que l'apparence lui contestait.
Résumons. Nous avons une petite fille tuée dans la cave de son immeuble, un jeune homme de 20 ans en prison pour ce meurtre, et une justice qui n'a retenu que ce qui était à charge et qui a donc pu fabriquer un coupable plutôt que trouver le bon. Parce que des éléments qui viennent faire douter de la réelle culpabilité de Devaux, il en existe. En voici un premier. Un automobiliste, cité par le journal Paris Jour, au surlendemain de la mort de la petite Dominique, affirme avoir vu un homme hirsute dont la chemise blanche était marquée de taches brunâtres. Et deux autres témoins soutiennent avoir vu eux aussi un individu s'enfuir, venant des bâtiments où se trouve la boucherie Bessard. Le soir du crime, un chien policier reniflant une piste encore fraîche mène les enquêteurs à 300 mètres du bâtiment où vivait l'enfant. Deuxième élément. Lorsqu'il avoue, Devaux précise avoir frappé Dominique de plusieurs coups de couteau au ventre. Elle crie, puis il lui met la main sur la bouche et l'égorge. Or, d'après l'autopsie, les coups ont d'abord été portés à la gorge, puis au ventre. Un détail qui tient à la quantité de sang qui s'est écoulé du corps. Troisième élément, lié celui-là à la quantité de sang qui jaillit lors d'un égorgement. Devaux aurait dû en être couvert, mais ses vêtements, dont son large tablier blanc de travail, n'emportait aucune trace. Aucune goutte non plus sur sa montre ou ses lunettes. Comment est-ce possible? Quatrième élément, le temps. Dominique est morte entre 15h15 et 15h30, ce 7 juillet 1961. Or, Devaux n'a pas pu tuer dans ce court laps de temps. Les témoins présents ce jour-là dans l'immeuble, dont la mère de l'enfant, ont minutieusement décrit leur emploi du temps, leurs mouvements, leurs occupations, ainsi que ceux de la petite et de Devaux, matériellement. Factuellement, le garçon boucher ne peut pas être le meurtrier. Mais lors de l'enquête et du procès, ces faits sont tordus, triturés, mis de côté par la justice, pour qu'ils collent à la recréation d'une réalité dont enquêteurs et magistrats ne veulent démordre. En clair, dans cette affaire, la culpabilité de Devaux n'a pas été prouvée, elle a été fabriquée. Et c'est ainsi qu'un innocent dort en prison, un innocent qui témoigne.
Ben, vous voyez quatre murs devant vos yeux qui défilent, avec une porte, vous levez la tête, il y a une fenêtre avec des barreaux, et puis vous tournez en rond, dans une cellule, avec une petite table, un tabouret, puis un lit d'un côté. Quand vous tournez, vous pensez à l'injustice.
Six mois après la condamnation de Jean-Marie Devaux, un doute surgit. Le 5 août 63, dans le même bloc d'immeuble où était retrouvé le corps de Dominique Bessard, des habitants découvrent le cadavre de Louis Lassalle, 29 ans. Louise, cette jeune femme, a été tuée dans le couloir qui mène aux caves. Le correspondant de l'agence centrale de presse écrit: on ne manque pas de se demander dans la ville si ce nouveau meurtre n'amènera pas un rebondissement dans l'affaire Devaux. On ne manque peut-être pas de se le demander en ville, mais pas au palais de justice de Lyon. Ce second meurtre ne constitue pas un élément nouveau permettant de réviser le procès Devaux. En revanche, il renforce la conviction de ceux qui croient en son innocence, car il y en a. Au moins deux, et dès le début. Le premier, c'est son avocat, André Soulier. Le second s'appelle Robert Boyer. C'est un visiteur de prison, un homme d'église formé chez les jésuites. En mars 62, l'abbé rencontre Jean-Marie Devaux en détention provisoire. Dans le livre « L'affaire Devaux », il raconte avoir vu entrer dans le parloir un enfant émotif. Pendant le procès, Boyer est frappé également, voire révolté. Formé aux disciplines historiques à l'université, dit-il, j'y ai appris le respect du document. C'était choquant. Ces horreurs remaniées, ces témoins si dociles, c'était gênant, oui, vraiment très gênant. Au gardien de prison qui l'interroge, l'abbé formel, Devaux est innocent. Il y croit si fort qu'il écrit au garde des Sceaux et qu'il se bat aux côtés de l'avocat du jeune homme pour le pourvoi en cassation. Quand celui-ci est rejeté, c'est Boyer qui l'annonce au détenu. Et c'est encore lui qui tente de le convaincre de demander la grâce présidentielle.
Je lui ai parlé d'une possibilité de recours en grâce, introduit directement à l'Élysée. Il m'a répondu simplement
« Ça m'embête, parce que la justice dira que je suis toujours coupable. Je suis innocent. »
Trois jours après, une lettre m'est arrivée et Devaux écrivait
« Je ne veux pas me reconnaître coupable. Je préférerais rester en prison que vivre dehors considéré coupable, sans mon honneur. »
Cette réaction m'a fait plaisir. La liberté liée à l'honneur recouvré, ce n'était plus une pensée d'enfant, et c'était une pensée personnelle, car jamais des codétenus n'auraient conseillé ça à Deveau. Il lui aurait plutôt dit « Si tu peux sortir, prends ».
Non, Deveau ne veut pas être gracié, il veut être innocenté. En détention, remarque l'abbé, le jeune homme qui avait des attitudes d'enfant s'est virilisé, je reprends son mot. Et hors des murs de la prison, se forme alors un comité de soutien. On y trouve des écrivains comme Gilbert Cesbron ou l'académicien Jean Rostand, des journalistes comme Jean Co ou le chroniqueur judiciaire Frédéric Potcher, et puis des députés comme Louis Jox ou le vice-président de l'Assemblée Eugène Petit. L'avocat de Jean-Marie Deveau, André Soulier, se sent désormais moins seul.
Au fil des années, au fil des mois, de nombreuses personnalités qui appartiennent à tous les milieux ont été émues d'abord par un homme qui n'a cessé de crier qu'il est innocent. Sur ce point, leur intervention doit être prise en considération. Ce que Deveau demande, ça n'est nullement qu'on l'absolve, ça n'est nullement qu'il sorte libre de la maison d'arrêt où il est détenu, sans plus jamais rendre de compte. Il veut être rejugé, il veut comparaître devant de nouveaux juges, avec toutes les conséquences et tous les risques que cela comporte. C'est un nouveau procès que nous voulons, ça n'est pas l'absolution pure et simple.
Et pour un nouveau procès, il faut passer par la Cour de cassation, qui seule peut l'ordonner. Le premier, on l'a vu, est rejeté en 64, le deuxième en 66. Deveau fait la grève de la faim. Le troisième, appuyé par le ministre de la Justice, est accepté. Et le mercredi 24 septembre 69, un nouveau procès s'ouvre, à Dijon cette fois, après 8 ans tout de même de prison pour Jean-Marie Deveau. France Inter y dépêche son chroniqueur judiciaire François Fougard.
Chaque année, des cours d'assises, trois magistrats et quelques honnêtes gens ont à décider de l'honneur, de la liberté, et quelquefois de la vie même, d'un certain nombre d'accusés. La plupart des affaires, comme dit le langage d'usage, ne sont pas belles. Mais d'autres remuent l'opinion, prennent un relief, une proportion telle qu'au-delà même du prétoire, c'est de tragédie qu'il faut parler. Ainsi de l'affaire Deveau, qui commence dans quelques minutes devant la cour d'assises de Dijon. En ce moment, Deveau est dans un réduit entre deux gendarmes et la petite porte qui donne sur le box des accusés va s'ouvrir devant les témoins passionnés, mais lucides, souhaitons-le, qui vont scruter ce visage.
Et ce procès bien différent du premier. Les témoins se contredisent et bafouillent, les experts bredouillent et le commissaire Durin s'embrouille. Comme si ce policier qui lui a extorqué ses aveux ne prouvait finalement que son propre acharnement. Le journaliste du Monde, Jean-Marc Théoler, écrit dans son compte-rendu « On voit sourdre de multiples raisons de douter ». Le 27 septembre, à l'issue des débats, le procureur général requiert pourtant la confirmation de la condamnation de Jean-Marie Deveau. Il demande 20 ans à nouveau, tout en concluant « Si je ne vous ai pas convaincu, acquittez l'accusé ». Et puis vient le moment de la défense. André Soulier prend la parole. Il plaide durant 3 heures l'innocence de Jean-Marie Deveau. Au journal du soir de France Inter, Yves Mourouzi raconte.
17h30, la salle de la cour d'assises est surchauffée. L'attention du public est tendue, l'atmosphère est lourde. Deveau se lève à la demande du président. La voix étranglée, Deveau articule 3 phrases. « Je suis innocent, je souffre depuis 8 ans, je vous en supplie, je suis innocent ». 17h50, le tribunal se retire pour délibérer. 18h30, l'huissier annonce la cour. L'atmosphère est tendue, les secondes sont pesantes. D'une voix émue, le président lit le résultat des délibérations. C'est long, c'est difficile. Pourtant, le texte ne comporte qu'une phrase. À la question « Jean-Marie Deveau est-il coupable ?», le jury a répondu « non ».
La condamnation de Jean-Marie Deveau 8 ans plus tôt n'avait pas fait les gros titres, comme si elle allait de soi, comme si elle était l'aboutissement logique d'un fait divers sordide. Son acquittement, en revanche, s'affiche dans tous les journaux pendant plusieurs semaines. Le Parisien Libéré écrit ainsi, quelques jours après, qu'il n'y a plus d'affaire Deveau, mais qu'il y a toujours une affaire Dominique Bessard. Paris Match publie le 27 septembre 6 pages titrées « La passion du père Boyer ». Puis le 4 octobre, 6 pages à nouveau titrées « Deveau acquitté ». Enfin, le magazine affiche la semaine suivante, en double page, une photo. On y voit Deveau assis sur une branche qui surplombe la Saône, canne à pêche en main. L'image paraît un peu factice. Il est en chaussures de ville, pantalon noir, puis les chemises. En bas à droite est écrit « La rééducation de la liberté ». Dans François, le 15 octobre, Deveau déclare « Maintenant, dans la rue, les passants me sourient. Avant, ils m'auraient peut-être craché dessus ». Le journal précise que le jeune homme habite chez ses parents depuis sa libération et que son père, frappé d'aphasie après le terrible verdict de Lyon, peut désormais se lever de sa chaise et faire quelques pas. Le quotidien La Manche Libre se demande en une « Mais comment un homme que la justice vient de reconnaître innocent a-t-il pu passer 8 ans en prison ? Et comment peut-il revenir de cet enfer ?»
Quel âge avez-vous ?
Je vais avoir 30 ans.
Et vous êtes entré en prison à quel âge ?
À 19 et demi. Et j'en suis ressorti, j'en avais 27 et demi. Je suis devenu comme tout le monde. J'ai essayé de, si je puis dire, de me réadapter à la vie. Ça m'a demandé des efforts considérables. Sinon, je n'aurais certainement pas pris un métier, être marié, etc. C'est moi-même qui ai fait les efforts et qui m'ont... Je voulais absolument oublier cette injustice que j'ai eue, que j'ai souffert pendant 8 ans, et je voulais absolument, parce que c'est pas la justice qui veut m'aider.
Non, la justice ne veut pas l'aider, mais elle a bien été forcée de reconnaître son erreur. Alors elle doit maintenant la réparer, si c'est possible. Comme le note dans ses mémoires André Soulier, l'avocat de Devaux, mon rôle ne devait pas s'arrêter à sa libération. Alors il se bat pour que son client soit indemnisé pour les années de prison qu'il a endurées. Toujours dans ses mémoires, il ironise « Dans cette affaire, j'avais déjà usé 3 ministres de la justice, il m'en fallait un 4e. » Le 4e, c'est René Pleven. La presse chronique à plusieurs reprises les rencontres, les échanges entre l'avocat et le garde des Sceaux. Et le 17 juillet 70, le Parlement vote la loi sur l'indemnisation des personnes acquittées, relaxées ou bénéficiaires d'un non-lieu. Le 2 mars 1972, Jean-Marie Devaux se voit accorder une somme de 125 000 francs, l'équivalent de 140 000 euros actuels. Pour la petite histoire, lors de l'audience, l'avocat général avait estimé que Devaux ne devrait être indemnisé que pour 6 mois de détention. Pas 8 ans. Parce qu'après tout, à un moment, il avait avoué. Alors ces 8 ans, c'était un peu de sa faute.
France Inter. Affaire sensible. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, l'affaire Jean-Marie Devaux. Nous en parlons avec notre invité Mathieu Delahousse. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à l'Obs, chroniqueur judiciaire et auteur de plusieurs livres sur la justice, dont La Chambre des Innocents, paru chez Flammarion en 2017. Livre pour lequel vous avez assisté à plusieurs audiences de la commission des réparations de détention. Et bien sûr, on y reviendra, on ira dans les coulisses de cette juridiction. D'abord, je voudrais revenir sur le cas particulier de Jean-Marie Devaux. Bien sûr, la loi de 1970 sur l'indemnisation, portée par son avocat, c'est vraiment le tout début de la reconnaissance par la justice du préjudice qu'il peut y avoir à être incarcéré à tort, l'une des choses les pires qui puissent arriver en démocratie.
Oui, c'est l'une des lois les plus importantes quand on le regarde de près. En quelque sorte, c'est la première brèche dans l'histoire judiciaire de ces années 70, 80 et suivantes qui sont très chargées dans la reconnaissance de l'innocence. 70, on est encore dans une France où la peine de mort n'a pas été abolie. On est encore dans une France où l'appel aux cours d'assises est impossible. C'est assez vertigineux quand on y pense aujourd'hui, mais jusqu'en 2000, on ne pouvait pas faire appel d'un verdict de cours d'assises. Et c'est la première brèche où, effectivement, dans cette catégorie qui a été décrite par la loi, soit l'acquittement en cours d'assises, soit la relaxe au tribunal correctionnel, soit le non-lieu dans le cabinet du juge, eh bien, il se passe quelque chose. Jusque-là, on était innocenté. On reprenait son baluchon à la maison d'arrêt, la lourde porte en fer se refermait derrière soi avec un petit pécule si on était indigent, mais on était remis à sa vie, vraiment comme on reprend un poisson et qu'on le remet dans le cours d'eau. Cette fois-ci, la justice, la loi, inscrit quelque chose et, encore une fois, ça ouvre une brèche sur tout ce qui va se dérouler ensuite, au-delà de l'importance des parcours individuels qui sont tous vertigineux.
Alors, évidemment, la problématique dans cette histoire, c'est que la justice a du mal à se désavouer. Et quelque part, on peut le comprendre si la justice dit tout le temps ben « on s'est trompé, où est la confiance ?» Et en même temps, il y a quand même un besoin impératif de justice dans la justice. Comment trouver la balance ? C'est ça en fait le nœud du problème.
Le nœud du problème, c'est qu'effectivement, il y a énormément de réticence.
Et oui.
On touche au sacré. Le verdict de la cour d'assises est sacré, c'est l'expression populaire d'une décision qui ne peut pas faire l'objet d'un appel à l'époque. Les magistrats sont assez hostiles. Alors, c'est vrai que ça fait un petit peu caricatural de le dire comme ça à chaque fois, notamment l'avocat général qui, dans l'affaire Devaux, malgré les preuves d'une innocence éventuelle, va continuer à requérir la confirmation et puis, au dernier moment, s'en rapporter en disant peut-être vous l'acquitterez. Mais en quelque sorte, les magistrats sont contre cette position de revenir sur une décision de condamnation, mais ils ne sont pas seuls. Les hommes politiques le sont aussi pour une autre raison. Dans les années 70, le monde politique reste marqué par une très vieille affaire qui remonte à la cour d'assises de Reims dans les années 50, début des années 60, c'est l'affaire Chevalier. C'est la femme d'un ancien secrétaire d'État au sport et à la jeunesse qui a tué son mari quand il a commencé à avoir du succès d'une part en politique et d'autre part avec les femmes. Elle l'a tué, elle a été renvoyée en cour d'assises, elle a été reconnue coupable puisqu'elle avait effectivement tué son mari, mais les jurés ont décidé de l'acquitter parce qu'ils considéraient qu'elle avait de bonnes raisons de tuer son mari. Cet incident, cette histoire judiciaire très singulière marque beaucoup la classe politique à l'époque parce qu'on se dit que, bon, on se méfie un peu de ces jurés, on se méfie pas encore autant parce que ça reviendra ensuite dans un second argument des grands avocats d'assises qui vont parvenir à renverser la salle et on se dit que finalement accorder cette fameuse brèche n'est pas une solution si facile, donc il y a beaucoup de réticence de la part des magistrats, de la part des hommes politiques, et puis aussi, d'une certaine façon, du bon sens, puisque ce sont des encombrants, ces gens-là. Ces gens-là, ce sont des gens qui représentent la marge d'erreur de la justice. Dans tous les métiers, il y a des marges d'erreur, elles sont plus ou moins graves. À la SNCF, elles font râler, mais elles n'ont pas beaucoup de conséquences.
Alors que là,
pour l'institution judiciaire, ce sont des conséquences dramatiques. L'un des chroniqueurs qui est cité dans le récit que vous venez de faire mettait en avant le fait, effectivement, qu'on joue avec l'honneur, la considération, mais même la vie. Et effectivement, la conséquence de la marge d'erreur de cette institution. La justice n'est pas un service public comme un autre, donc comment évaluer cet impalpable ?
Alors, pendant un an, je crois, vous avez assisté à des audiences d'indemnisation, c'est ça ?
Absolument.
Bon. Est-ce que vous avez vu beaucoup de cas similaires à celui de Jean-Marie Devaux, ou est-ce que, par définition, toutes les affaires sont différentes ?
C'est ce que j'allais vous dire. L'affaire Devaux est unique. On entendait la tessiture de la voix de ce garçon commis boucher tout à l'heure qui parle avec des mots d'enfant, malgré tout, de l'enfermement. Et ce défilé auquel j'ai assisté, moi, m'a beaucoup marqué pour ces personnes de cet âge-là. C'est-à-dire qu'ils sont incarcérés au moment où leur vie commence à se construire, entre leurs 18 et leurs 22 ans, grosso modo, et ils ressortent à 30. Qu'a-t-on fait, chacun d'entre nous, entre nos 18 et nos 20 ans et nos 30 ans en réalité ? C'est le moment où la vie s'est construite. Et dans ces cas que j'ai pu voir défiler, effectivement, cette jeunesse, c'est toujours très troublante, parce que on ne peut pas s'empêcher d'être dans la projection. Qu'aurait-il fait Devaux s'il avait été libre ? Qu'aurait-il fait celui que j'ai vu, par exemple, qui était l'un des cas qui m'avait beaucoup marqué ? C'était un jeune homme qui était sur le parking d'une discothèque à côté de Guéret, dans la Creuse. Il avait été accusé de viol. Immédiatement, il avait été déféré devant les juges. Il a été placé en détention provisoire. Et il en était sorti. Alors, il faisait un petit peu de photos avant. Et il continuait à en faire un peu de photos. Et il continuait à avoir demandé cette indemnisation. Je l'avais vu à l'audience. Les années s'étaient passées, puisque tout ça est toujours très long. On parle de procédure judiciaire. Et il continuait à redire avec cette espèce de naïveté, je fais un peu de photos. Et en réalité, ce garçon, il était resté bloqué. Il était resté bloqué à ces années. Il était toujours sur le parking de la discothèque. Et quand il demandait, qu'est-ce que vous faites ? Il répondait, je fais toujours un peu de photos. Et cette notion-là, elle se traduit en justice par ce qu'on appelle la perte de chance. Alors, il y a beaucoup de concepts juridiques extrêmement compliqués devant cette commission d'indemnisation, qui est une commission civile. Mais la perte de chance, c'est effectivement d'essayer de projeter sur ce que les études de l'innocenté aurait pu provoquer sur le parcours qu'il aurait pu faire et donc ce qu'il aurait pu gagner.
Cette affaire rappelle furieusement l'affaire Patrick Dils. Il y a beaucoup de choses en commun, notamment la personnalité de l'accusé. Il y a un vrai parallèle entre les deux.
Alors, il y a un parallèle qui est extrêmement saisissant quand on se plonge dans l'affaire de Patrick Dils. Moi, je me souviens de l'avoir vu et entendu après les deux procès qui, finalement, après un parcours très compliqué, sont arrivés à son innocence. C'est qu'il avait écrit, et d'ailleurs, sauf erreur de ma part, c'est le titre du livre qu'il a consacré à son calvaire d'innocent. Il avait dit « Je voulais simplement rentrer chez moi ». Et on a l'impression d'entendre Jean-Marie Devaux dans les mêmes termes, c'est-à-dire qu'effectivement, cette cette peur de la piqûre, cette peur de la seringue, fait que on ne va pas dire la vérité, on va se laisser prendre dans des mensonges. Et puis il y a une deuxième similitude qui est beaucoup plus cruelle et qui est beaucoup plus tabou à évoquer, c'est que dans les deux cas, dans le cas de Montigny-les-Metz, il reste le crime de deux enfants qui n'a pas été résolu de façon immédiate avant que le rebondissement intervienne autour de Francis Holm. Et puis, effectivement, dans l'histoire de la petite Dominique, il y a ce même cas qui, bien longtemps, reste dans les esprits. Et cette mécanique judiciaire, elle est terrifiante. C'est qu'effectivement, tant qu'on n'a pas trouvé un coupable de substitution, tant qu'on n'a pas trouvé une bonne raison, on est dans autre chose que ce qui fonde les grands tests, ce qui fonde les fondamentaux de notre justice, c'est-à-dire que le doute doit profiter à l'accusé. Et puis, faute de charge, effectivement, on doit être relaxé, acquitté ou bénéficier d'un non-lieu.
Alors, est-ce que l'erreur judiciaire est une atteinte à l'état de droit ?
L'erreur judiciaire est une atteinte à l'état de droit. Et c'est bien pour ça que la France, en l'an 2000, quand Elisabeth Guigou est garde des Sceaux, doit s'aligner sur des textes extrêmement protecteurs pour le citoyen quand effectivement il est désigné à tort, qu'il subit une détention à tort et qu'effectivement l'état de droit n'a pas fonctionné. On revient à cette histoire de marge d'erreur qui est infiniment douloureuse, mais fondamentalement sur l'état de droit, il y a ces deux aspects. L'aspect de la détention, quand il est indemnisé par le biais de l'argent, parce qu'on n'a pas trouvé autre chose aujourd'hui pour réparer une erreur judiciaire ou une incarcération injustifiée. Aujourd'hui, s'appuie sur des constatations extrêmement documentées, faites notamment par ce qu'on appelle le contrôleur des prisons, c'est-à-dire le contrôleur général des lieux privatifs de liberté, qui était Jean-Marie Delarue, qui est aujourd'hui Dominique Simoneau. Et effectivement, être incarcéré tout seul dans une maison d'arrêt tranquille où on ne se fait pas agresser, c'est pas la même chose que d'être accusé d'un crime où on est désigné comme pointeur. Et quand on descend dans la cour de promenade, on se fait effectivement malmener de façon extrêmement importante, absolument.
Il y a même danger de mort parfois.
Par ces co-détenus. Et l'autre aspect, c'est qu'effectivement, c'est les deux degrés de juridiction. Effectivement, jusqu'en 2000, quand on est en correctionnel, on peut faire appel. Quand on est en cour d'assises,
on peut faire appel désormais.
C'est terminé. Maintenant, on peut le faire.
Comment on indemnise ? Il y a un barème d'indemnisation qui est annexé à l'étendue de l'erreur ou l'étendue du crime. Enfin, je ne sais pas, dites-moi.
Alors, c'est toujours très compliqué et très technique. Effectivement, l'indemnisation, elle est vertigineuse pour ceux qui viennent la réclamer, parce que bien souvent, leur avocat leur dit « Bon, vous avez le droit de demander cette indemnisation. » Et ensuite, on la calcule. Alors, comment on la calcule ? Quand on est salarié, on prend les fiches de salaire et on dit « Vous n'avez pas eu de salaire entre la période X et la période Y. » On fait le calcul, on fait une addition et on donne le salaire. Dans les maisons d'arrêt, dans les tribunaux, dans la vie de la délinquance en général, assez peu de gens peuvent vous présenter des fiches de salaire en bonne et due forme avec les tickets restaurants et puis le bon pour le comité d'entreprise. En général, on est dans des univers un peu plus complexes. Donc cette première partie peut déjà poser problème. Ça, c'est le préjudice qu'on appelle matériel chez les juristes. Le préjudice moral, il est fascinant. Parce que le préjudice moral, il se calcule selon toutes les notions qu'on peut avoir à l'esprit. La première, c'est le choc carcéral. En réalité, le fait d'être allé en prison est un calvaire à toutes les échelles de la vie sociale. J'ai vu un énarque dans la Chambre des Innocents, qui était un homme qui travaillait à Bordeaux. Il avait travaillé avec le maire de Bordeaux à ce moment-là. Et lui mettait en avant son préjudice de façon terrifiante, puisqu'il était très fier de son curriculum vitae. Il était très fier de son parcours de grand commis de l'État. Et quand il a été incarcéré, il a été innocenté. Il pensait que ça suffisait. Et puis plusieurs fois, il s'est retrouvé devant des assemblées d'étudiants devant lesquels il donnait des conférences auxquelles il se pensait très brillant et très savant. Et puis un jour, il y a un étudiant insolent qui a cherché son nom sur Internet et qui lui a dit « Mais dites-moi, vous avez appris tout cela dans une maison d'arrêt pendant votre incarcération ? L'énarque, c'est littéralement effondré. Il n'a pas supporté cette image. Ça, c'est pour le haut du panier, en quelque sorte. Et puis, ces gens innocents dont vous avez souligné tout à l'heure qu'on ne sait même plus comment prononcer leur nom à la radio. Est-ce que c'est Devaux, Devos, Devaux, Jean, Jean-Marie ? Ces anonymes, ces personnes dont personne ne parle, chacun sait qu'on a vu une fois la voiture de gendarmerie en bas de chez eux, qu'on les a vus partir entre deux gendarmes. C'est quasiment la chanson de Brassens. Mais c'est à toutes les échelles, cette espèce d'atteinte à la présomption d'innocence qui est un marqueur à vie et qui est très difficile à restituer. Alors, évidemment, pour la presse, pardon de me glisser sur cet aspect-là, il y a un aspect qui est vertigineux, c'est que nous, journalistes, chroniqueurs judiciaires, avec toute la façon dont on veut mener le mieux possible notre métier, on parle beaucoup des déclarations de condamnation, beaucoup du moment où le suspect est arrêté, et beaucoup moins en général du petit entrefilet qui fait que l'innocence a été reconnue.
Il y a presque un contre-exemple, celui de Patrick Dils encore, le fait d'avoir qu'il ait écrit un livre. Moi, j'ai pas l'impression qu'on le regarde avec les yeux d'un coupable, au contraire, les yeux d'un martyr, non ?
Absolument. Il y en a peu. Il y en a quelques-uns dont l'innocence est reconnue. En général, parce que leur préjudice d'image a été tellement conséquent qu'ils veulent se réhabiliter en quelque sorte aux yeux du monde. Mais cet aspect-là est très violent, puisque beaucoup d'innocents n'ont pas été médiatisés de façon considérable, et beaucoup refusent même de se rendre devant la Chambre des innocents. Ils se disent « je préfère ne pas avoir d'indemnisation en monnaie sonnante et trébuchante, mais qu'on ne parle plus de moi et que plus jamais je rentre dans un palais de justice ».
Merci infiniment Mathieu Delahousse pour tous ces éclairages. Merci, au revoir.